Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine régional d'information de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, Low-Tech et réfugiés proposent des formations aux réfugiés à Briançon et Marseille. Susanna Wright a rencontré la fondatrice et directrice de l'association et la responsable de la structure briançonnaise. Du 12 juillet au 20 août, le dispositif Manosque Vacances est reconduit avec cette année une prédominance des activités sportives. Le projet alimentaire territorial de l'agglomération dinoise est validé. Nous entendrons Bruno Assiaille. La saison culturelle de l'agglomération manosquine a été dévoilée, elle est diversifiée. Des précisions dans un instant. Une étude passionnante a été publiée sur les noms de lieux dans l'œuvre de Jean Giono. Mathieu Marc a interviewé son auteur Jean-Claude Bouvier. La journaliste Nesrin Slaoui rencontrait ses lecteurs au Bleuet à Bannon. Son premier livre raconte son parcours personnel d'un quartier populaire d'Apt dans le Vaucluse jusqu'à Sciences Po Paris, d'où elle sort diplômée malgré ses origines. Rencontre passionnante avec une battante à la fin de ce magazine. ECO propose des formations sur Briançon et Marseille.
En 2018, le projet Low-Tech et réfugiés est né aux frontières de l'Europe sur l'île de Lesbos. ECO agit alors sur trois territoires, en Grèce d'abord, là où se situe le plus grand campement de réfugiés d'Europe, puis sur Briançon, zone de passage à la frontière franco-italienne, et enfin à Marseille, métropole cosmopolite et méditerranéenne. Le Low-Tech Makerspace, atelier partagé, inclusif et écologique, met à disposition des outils, matériaux, inspirations et accompagnements afin que tout le monde, les exilés et habitants locaux, hommes et femmes, répondent par eux-mêmes à leurs besoins, alimentation, énergie, mobilité, etc. Marjolaine Berthe, fondatrice et directrice d'ECO et Low-Tech et réfugiés, puis Noémie Gourmelan, coordinatrice de l'antenne de Briançon, répondent aux questions de Susanna Wright.
L'association ECO porte des projets innovants dans les domaines de développement durable et de la solidarité internationale. Quels sont-ils, Marjolaine?
Aujourd'hui, ECO porte deux programmes. Écoloc, qui diffuse les colocations conviviales, écologiques et solidaires, et Low-Tech et réfugiés, qui agit à Briançon et à Marseille avec les exilés pour répondre à leurs besoins de base et contribuer à leur insertion professionnelle.
Et low-tech, c'est quoi exactement?
Ce qu'on appelle une low-technologie, c'est un système technique simple qui est utile, qui répond aux besoins de base comme l'accès à l'énergie, à l'eau, à l'habitat, à la santé, à l'alimentation, qui est accessible d'un point de vue financier et en termes de savoir-faire. Et troisièmement, qui est durable, c'est-à-dire qui est fabriqué avec des matériaux locaux issus de la récupération ou biosourcés, qui est peu polluant, peu énergivore et enfin qui est réparable.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de low-tech?
Une low-tech, c'est une technique agroécologique ou alors un frigo qui n'a pas besoin d'électricité ou un vélo qu'on a réparé soi-même. Ce sont des techniques qui sont très variées et qui s'intègrent dans la transition écologique de nos territoires. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes exilées ont des compétences très intéressantes, très riches, qu'on peut valoriser sur notre territoire autour de ce savoir-faire écologique.
Vous êtes combien dans l'association?
Aujourd'hui, on est environ 35 bénévoles et volontaires à temps plein et une salariée.
Et ECO a été lancé quand?
ECO a été lancé à la COP21 en 2015 à Paris. Et le programme Low-Tech et réfugiés a commencé dans le plus grand camp de réfugiés de l'Union européenne en 2018, entre la Grèce et la Turquie sur l'île de Lesbos.
Votre association organise des formations et des ateliers à Briançon et à Marseille. Quels sont-ils, Naomi?
Alors oui, on organise différents types d'ateliers sur Briançon. Ça va être des ateliers qui vont aborder différentes thématiques comme la couture, de la mécanique de vélo, de voiture. On a également des cosmétiques, des savoir-faire do-it-yourself pour faire donc par exemple exemple du baume à lèvres ou même des savons. On peut faire également de l'éco-construction avec là notre partenaire Carter. Donc ce sont des ateliers qui sont en fait ouverts à tous, où on essaie d'avoir une mixité au sein de nos participants, d'avoir à la fois des personnes exilées et des personnes locales ou des touristes qui ont envie d'apprendre un savoir-faire, qui sachent bricoler ou non. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de mélanger tout type de personnes qui a envie d'apprendre ou et même de partager une expérience qui est riche humainement.
Quelles sont les formations à venir pour Briançon et Marseille?
Alors à Briançon, on va avoir une formation en juillet de rocket stove. Un rocket stove, c'est un cuiseur à économie de bois extérieur, et donc c'est parfait en cette saison de barbecue.
Exactement, ouais, utile.
Voilà, c'est ça. Et en août, on va développer un système pédalier qui utilise l'énergie mécanique pour approvisionner un autre système qui a besoin d'énergie. Et à Marseille, en juillet, on va avoir une formation Carter qui est de l'éco-construction. En août, la même formation, un système pédalier. Alors, une formation, elle peut être sur une journée ou sur plusieurs journées avec un formateur technique, donc qui va nous apporter son savoir-faire voilà, de low-tech, et un animateur qui va être membre de l'association ECO, qui va s'occuper de trouver des participants exilés, des participants non exilés.
C'est ouvert à tous.
C'est ça, c'est ouvert à tous, c'est un moment de partage où sur une formation, donc on va déjeuner ensemble. Les personnes qui savent bricoler ou non sont les bienvenues, hommes, femmes. D'ailleurs, on a aussi des formations et des ateliers qui sont spécifiquement dédiés pour les femmes et grâce à notre financeur, notamment Raja Daniel Marcovici.
Comment on peut retrouver toute cette information et s'inscrire, par exemple, pour les formations?
Alors, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux à Low-Tech et Réfugiés, Briançon pour et les formations qui ont lieu à Briançon, et Low-Tech et Réfugiés Marseille qui ont lieu sur Marseille. Et les inscriptions se font soit en envoyant un mail ou alors en nous contactant par téléphone.
Manosque Vacances se porte bien.
Plusieurs élus de la majorité municipale manosquine sont des adeptes du sport et ils ont souhaité marquer l'édition 2021 du dispositif Manosque Vacances de cette empreinte. Du 12 juillet au 20 août, athlétisme, judo, basket, VTT, boxe, voile, natation ou encore handball et bien d'autres encore seront accessibles pour les enfants de 4 à 12 ans et 14 ans pour l'aviron. Bien qu'elles ne soient pas présentées sur les programmes, des multi-activités seront aussi proposées lors des inscriptions et concernent des actions de loisirs et culturels. Quant aux adolescents, la ville indique que la balle est dans le camp de l'agglomération. Attention, les places sont limitées avec un tarif de 10 euros par session pour les résidents manosquins et tarif un peu plus cher pour les autres. Inscription à la maison des associations au parc de la Rochette et renseignements au 04 92 70 38 83. Premier adjoint au maire en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative, Alain Demoulin présente l'édition 2021 en compagnie de Christophe Lebrun pour le service des sports du pôle cohésion sociale de Manosque. Alain Demoulin, vous êtes premier adjoint à la ville de Manosque et vous avez relancé le dispositif Manosque Vacances pour cet été.
Oui, on est reparti avec peut-être un petit peu moins que les années d'avant parce qu'on a encore cette notion de Covid, donc on a positionné sur 5 sites différents. On a un tout petit peu moins de propositions d'activités, mais par contre, on a mis des moyens différents, on a mis de la multi-activité et on a mis de 14 à 4 ans, ou alors de 4 ans à 14 ans, comme vous voulez, mais il faudra faire avec parce qu'on voudrait que tous les enfants de la ville de Manosque puissent avoir une réponse aux vacances qu'ils vont passer avec plaisir avec nous.
Et c'est une session qui est fortement marquée sport.
Alors oui, sur les grands, on a voulu inciter un peu les enfants à faire de l'activité. On sort quand même de 7 mois d'immobilisme, hein, on a tous été enfermés, bloqués, donc on a mis une tendance au sport. Par contre, on a mis un peu de la culture, de la musique sur les plus jeunes et de la motricité. On a même mis des langues, puisqu'il y aura la possibilité de faire de l'allemand.
Plusieurs sites vont être occupés pendant cette période. Je pense au Vanade, La Rochette, etc. C'est un bon point aussi pour la ville.
Il est bien qu'on redécouvre ces sites pour d'autres choses. Les sites, c'est bien, les gens y vont en famille et tout, mais aussi de savoir qu'on peut y faire des activités physiques, on peut y faire des activités diverses, récréatives aussi, et culturelles, puisqu'il y aura des actions culturelles au milieu de ces sites.
Un des partenaires importants pour cette opération, c'est le collectif sportif Manosquin, avec qui vous avez travaillé.
Oui, donc Serge Collin, le président du collectif, a mis à notre disposition dans toutes les activités sportives, tous les clubs. Ils sont venus nous donner la main et Christophe tout à l'heure pourra vous parler un peu des différents clubs qui sont avec nous et qui sont très heureux d'être avec nous parce que eux aussi ont souffert pendant cette période.
Autre nouveauté, le service des sports va être installé ici à la Maison des Associations à La Rochette.
Alors oui, à la rentrée scolaire, l'idée c'est d'avoir une cohérence un petit peu au niveau des services et tout ce qui touchera au sport, à la jeunesse et au sport se trouvera dans le parc de La Rochette qui est le beau parc du sport de la ville de Manosque et tous les services qui touchent au sport, aux vacances et tout, sera sur le site de La Rochette.
À vos côtés, Christophe Lebrun, qui est la cheville ouvrière de Manosque Vacances. Christophe, combien de clubs fonctionnent dans ce dispositif ?
Une quarantaine d'associations sportives et pluridisciplinaires aussi.
On retrouve des clubs tels le football, le handball, l'aviron ?
Oui, on a l'aviron, on a le taekwondo, on a le football, on a la gymnastique, on a le tennis, on a le tennis de table. L'ensemble des clubs qui fonctionnent sur l'année sont quand même présents d'une manière ou d'une autre sur le dispositif Manosque Vacances.
Je suppose que vous les avez sollicités. Ils ont été soulagés d'être sollicités après cette période sanitaire particulière.
Oui, exactement. Et c'est vrai, comme le premier adjoint l'a dit, pendant 7 mois, on est resté confinés. Et là, les clubs, les bénévoles et les intervenants de clubs ont besoin de retrouver des enfants et de pratiquer.
L'aspect multi-activité permet justement de faire travailler des associations diverses et les clubs sportifs.
Exactement, la volonté de la ville, c'est aussi de faire en sorte de garder cette pluridisciplinarité et de faire en sorte que les enfants les plus jeunes, 4, 8, 9 ans, puissent découvrir des activités sportives d'une part, mais aussi autres que sportives. Donc on a mis en place du multi-activité où il y a de l'activité sportive, de l'activité artistique, culturelle. Alors, par exemple, il y a l'environnement avec le CPIE, du baby-gym avec la gymnastique. Donc ça permet d'avoir une découverte plus large pour les enfants et les familles, donc voient ces activités qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir.
Alors on peut regretter que ce panel d'activités n'apparaisse pas sur le dépliant que vous délivrez en ce moment. Comment est-ce qu'on peut le savoir et où se trouve et où est-ce qu'on peut avoir ce dépliant ?
Alors ça n'apparaît pas parce que c'était très compliqué en fonction des semaines de positionner, ça aurait donné trop d'informations aux familles. Donc ces informations-là, elles l'ont quand elles viennent s'inscrire à la Maison de la Vie Associative. Alors pour s'inscrire, il faut nous appeler par téléphone, on prend un rendez-vous et on leur dit les activités qui restent et quelles activités en termes de multi-activités sont associées dans les sessions d'activités. Donc voilà, c'est plus simple parce que sinon il aurait fallu un dépliant un peu trop complexe pour cela.
Alors le dépliant, on le trouve comment, Christophe ?
Au niveau numérique, on le trouve soit sur le portail citoyen de la ville, soit sur le site de la ville. Il a été distribué dans toutes les écoles primaires de la ville. Il est dans toutes les structures, centre de l'enfance, MJC, vous pouvez le trouver, et à la mairie et aussi à la maison de la vie associative.
Un téléphone pour s'inscrire ?
Donc 04 92 70 38 83, donc c'est le standard chez nous, et donc on vous répond et on vous donne un rendez-vous.
À préciser aussi que si les personnes ne se rendent pas au rendez-vous, il n'y aura pas un second rendez-vous.
Exactement.
Car il y a une liste d'attente.
Voilà, exactement, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et donc voilà, on essaye de répondre un peu à tout le monde, mais il faut que les gens comprennent, quand on prend un rendez-vous, on attend, et donc si les gens ne préviennent pas, bien sûr qu'il n'y a pas un deuxième rendez-vous.
Provence-Alpes Agglomération valide son projet alimentaire.
C'est un projet ambitieux touchant à la filière d'alimentation sur un territoire où l'agriculture est dynamique mais fragile. Soutenu par l'État et la région, mais aussi des consulaires et associations, le projet alimentaire territorial entre dans une phase opérationnelle. Ses objectifs et enjeux agricoles, commerciaux et sociaux vont être déclinés prochainement grâce à un outil original. C'est ce que précise au micro d'Odile Frison le vice-président délégué à l'agroalimentaire et à la ruralité de P2A, Bruno Assiaï.
La première phase a été le diagnostic territorial du secteur agricole qui nous ont permis d'identifier donc les enjeux à mettre en œuvre. Et ensuite, la deuxième phase a été la concertation avec les ensembles des acteurs du territoire. Et la troisième phase, c'était celle d'aujourd'hui, en fait, la validation du plan d'action et le démarrage du plan de communication pour la rentrée de septembre.
Concrètement, ça veut dire quoi par rapport aux actions qui vont être menées ?
Pour nous, concrètement, aujourd'hui, on termine cette phase, on va dire, d'études et préopérationnelles. Et à partir du mois de septembre, c'est le plan de communication, de sensibilisation et d'information qui va démarrer. Et c'est aussi certaines actions qui vont démarrer, portées par certains de nos partenaires. On rentre dans le concret, en fait. Aujourd'hui, donc, s'est réuni pour la troisième fois le comité de pilotage de ce projet alimentaire territorial. Et l'objectif de ce comité, c'était de valider le plan d'action du projet alimentaire territorial et également de valider le schéma de gouvernance pour animer et coordonner le projet alimentaire territorial.
Pourquoi un projet alimentaire territorial ?
L'alimentation est quand même un thème de préoccupation majeure sur notre territoire, que ce soit au niveau national, régional ou local. Provence-Alpes-Agglomération a souhaité faire de son espace un territoire de pleine santé et en ce sens devenir une référence en matière d'alimentation respectueuse de la santé, de l'environnement, mais aussi être efficiente sur le plan de l'économie pour le secteur agricole.
Quels sont les enjeux ?
Alors les enjeux, nous en avons déterminé 8 suite au diagnostic territorial et agricole qui a été réalisé l'année dernière. Parmi ces 8 enjeux, en synthèse, c'est la sensibilisation à l'information sur la nécessité de consommer des produits locaux et de proximité. C'est la lutte contre le gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire aussi. C'est la préservation du foncier agricole sur notre territoire et accompagner le monde agricole justement sur des pratiques vertueuses pour protéger notre environnement et notre alimentation.
Par rapport aux exploitations que nous avons sur le territoire, vous parlez de 590 exploitations agricoles.
Oui, donc nous comptons sur le territoire 590 exploitations de taille plutôt petite et sans vraiment de spécialisation. 500 d'entre elles sont des exploitations professionnelles et 20% de ces 500 exploitent dans le domaine du bio.
On va parler des retombées économiques du PAT.
Les retombées économiques, forcément, alors on ne les a pas chiffrées parce que c'est quasiment impossible à chiffrer, mais on sait que de toute façon, le développement et la structuration de cette filière d'alimentation, notamment en circuit court, ne peut avoir que des retombées économiques sur notre territoire. Et c'est de par là préserver l'emploi aussi sur notre territoire et permettre à nos agriculteurs de vivre de leur travail. C'est un sujet de préoccupation majeure depuis longtemps. Et effectivement, la promotion de ces produits locaux et la consommation par nos habitants devrait leur permettre d'avoir des prix équitables.
Le territoire est labellisé par le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire quoi ?
Oui, tout à fait. Il y a donc un label qui est attribué par le ministère de l'Agriculture. Pour nous, en tout cas, c'est la reconnaissance du travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs sur ce territoire et l'adéquation du PAT local avec les enjeux nationaux qui ont été édictés par la loi pour l'agriculture de 2014. Et c'est aussi un point de départ pour nous de porter des projets et d'être accompagnés par les différents services de l'État.
Pour réaliser tout ça, il y a de nombreux partenaires financiers.
Oui, des partenaires financiers que sont la région et l'État au travers de la DRAF et de la DREAL. Et ensuite, il y a une multitude de partenaires privés, publics et institutionnels. Donc je pourrais commencer à faire la liste, mais j'en oublierai. Mais globalement, nous avons la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers, la SAFER qui est avec nous. Nous avons des associations aussi, l'association JESPER, l'association AgriBio. Et nous avons aussi la Caisse d'allocation familiale pour le volet précarité alimentaire et aussi les CCAS du territoire, par exemple.
Et vous parlez d'une nouvelle recrue ?
Oui, une nouvelle recrue au sein de l'agglomération, en partie sur ce dossier-là, Mathilde Gimenez, qui est à mes côtés, qui va avoir la charge d'animer et de coordonner ce projet alimentaire territorial avec l'ensemble de nos partenaires. Ce recrutement, ça c'est important de le dire, ça démontre, si c'était utile, la volonté de mener à terme ce projet alimentaire territorial de Provence-Alpes-Agglomération et surtout que ce soit une réussite sur notre territoire.
DLVA, une saison culturelle marquée par la diversité.
Il y en a pour tous les goûts. En espérant que les spectacles aient plus de chances que la saison passée, les trois scènes de Manosque, Sainte-Tulle et Vinon vont combler les publics. dès le 1er octobre et jusqu'en mai 2022, les habitués du petit écran pourront applaudir dans leurs œuvres respectives Francis Perrin, Patrick Sébastien, Valérie Damidot, Jean Benguigui ou encore Olivier de Benoît par exemple. Et l'on pourra aussi écouter l'accordéoniste Richard Galliano en complicité avec l'écrivain René Frény, le très grand groupe de gospel, le groupe corse I Campagnoli, la Loli Circus, les danseurs de Boys Don't Cry, le trio Goldberg et bien d'autres spectacles à découvrir. Citons également de manière très subjective l'homme qui plantait des arbres que la compagnie Peekaboo n'avait pu donner en 2020, le pétillant Mohican Dance, les jongleurs fous du groupe Les Moldaves ou encore Mars et Vénus et tant d'autres, en tout une quarantaine de soirées au théâtre Jean le Bleu de Manosque, au Moulin Saint-André à Vinon-sur-Verdon et au théâtre Henri Flucher à Sainte-Tulle. C'est d'ailleurs le maire de Sainte-Tulle, Jean-Luc Queyras, que je vous propose d'écouter. Il dit l'intérêt pour sa commune de figurer dans cette saison culturelle. Puis nous entendrons la vice-présidente déléguée à la culture de la DLVA, Sandra Faure. Jean-Luc Queyras, vous êtes le maire de Sainte-Tulle. C'est important ces spectacles chez vous au théâtre Henri Flucher?
Ah oui, c'est très très important. C'est d'autant plus important qu'on a été privé pendant quelque temps à cause du Covid. Donc là, ça revient et il faut que ce spectacle vive. C'est vrai que ça fait déjà 2 ou 3 ans que nous recevons le théâtre amateur organisé par la DLVA et on s'en réjouit.
Vous avez une salle de spectacle d'environ 200 places, comment ça se passe?
On a une salle de spectacle oui, qui contient entre 200 et 275 places, qui a été rafraîchie avec la peinture cet hiver. Donc voilà, elle est prête à accueillir le public et on espère qu'il viendra très très nombreux. Il n'y a pas que le théâtre à Sainte-Tulle, puisque là, bientôt, le 4, 5 juillet, puis le 8, 9, 10, il va y avoir le Festival des Lavoirs, que nous organisons chaque année, hein, pendant une semaine sur le parking des Lavoirs, avec encore une fois un spectacle varié pendant ces 5 soirées.
Ce sont des spectacles qui permettent aussi d'intégrer des artistes locaux.
Oui, il y a des artistes locaux. C'est gratuit, il faut le signaler quand même. Hein. Depuis maintenant de très nombreuses années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde, Tulésains et autres d'ailleurs, hein, puisque c'est ouvert à tous, bien entendu. Et c'est assez varié, il y a du jazz, il y a de la musique contemporaine, moderne, et il y en a pour tous les goûts.
Revenons à cette programmation 2021-2022. Avec votre collègue de Vinon, Claude Chélan, le maire, oui. Vous êtes inclus dans une dynamique avec la DLVA. Là aussi, il y a du sens.
Ah ben, il y a du sens et on s'en réjouit parce qu'on fait effectivement, comme vous venez de le dire, partie prenante complètement de la DLVA et de la culture. Et moi, je suis très attaché à la culture. Comme je vous dis, ça nous a énormément manqué. Et comme je l'avais signalé au début de l'entretien, on a un théâtre Henri Flucher qui nous demande qu'à revivre et qui a une histoire. Donc il faut vraiment qu'il y ait des spectacles de plus en plus nombreux dans ce théâtre. Comme je vous dis, il y a les spectacles organisés par la DLVA, il y a les spectacles organisés par la commune, et il y en aura encore. Et là, on a un magazine mensuel qui donne la programmation au fur et à mesure qu'arrivera dans notre commune.
Et puis éventuellement, est-ce que Jean-Luc Queyras, spectateur, se trouve de temps en temps à Manosque ou à Vinon-sur-Verdon?
Dès que je peux, je me trouve. J'avoue que je ne suis jamais allé à Vinon-sur-Verdon, je ne connais même pas la salle, mais je suis déjà allé, bien entendu, à Jean le Bleu voir des spectacles, à Sainte-Tulle, où j'ai vu récemment 2 pièces de théâtre l'an passé. L'année avant, en Covid, qui avait été joué, et en plus j'avais des amis qui faisaient partie de la troupe, donc je me suis réjoui d'aller l'encourager et le voir. Et c'était très agréable.
Sandra Faure, vous êtes vice-présidente à la DLVA, en charge de la culture. Présenter la saison 2021-2022, ça veut dire que la vie reprend.
C'est exactement ça, François. C'est plein d'espoir sur ce que tout le monde attend et enfin pouvoir ressortir et aller au théâtre et voir de beaux spectacles. C'est une attente que j'ai, j'espère qu'elle sera partagée, mais j'en doute pas. C'est la vie qui reprend, en effet.
Avec 3 endroits phares, on va citer évidemment le Moulin Saint-André à Vinon-sur-Verdon, le théâtre Henri Flucher à Sainte-Tulle et bien sûr le théâtre Jean le Bleu à Manosque, avec quelques points forts.
Oui, avec une belle programmation sur les 3 lieux. C'est vrai qu'en faisant rentrer le théâtre Henri Flucher de Sainte-Tulle, c'était aussi pour permettre, à mon avis, une meilleure lisibilité au niveau de la programmation. Donc, on aura un théâtre amateur. Alors, c'est un peu historique sur Sainte-Tulle, hein, c'est pas une grande nouveauté, mais des belles pièces sur Sainte-Tulle. Et on va aller sur des spectacles plus grand public sur le théâtre Jean le Bleu, parce que la jauge s'y prête. Et c'est important, je pense qu'on arrive comme ça à toucher un maximum de personnes et faire plaisir au plus grand nombre.
Alors il y a des acteurs ou des comédiens qui viendront et qui sont très connus, je pense à Francis Perrin, Patrick Sébastien, Jean Benguigui, Boudère, etc. Enfin bref. Et puis, il y a des spectacles plus intimistes et à découvrir.
Oui, des spectacles plus intimistes et aussi une reprogrammation qui m'était chère parce que on a eu malheureusement la saison précédente 30 annulations, ce qui a été catastrophique, et la saison d'avant aussi. Du coup, là, on est sur 5 reprogrammations, et notamment une compagnie qu'on avait en résidence qui s'appelle Picaboo, et dont le spectacle était proposé pour les scolaires. Donc 2000 petits élèves du territoire devaient venir voir le spectacle, et je vous parle de ça, c'était pour 2020, c'était pour l'année Giono, puisque le spectacle est l'homme qui plantait des arbres, et on aura la joie cette année de pouvoir le reproposer à ses élèves. J'en suis très heureuse.
On va rester dans la littérature, si vous voulez bien, avec un hommage qui est rendu aussi à notre ami René Frény, écrivain manosquin, et puis un excellent musicien, Richard Galliano, qui va l'accompagner pour l'oratorio Les Chemins Noirs. Vous serez là ?
Oui, je serai présente, bien sûr. Ça va être un très beau spectacle, je n'en doute pas, et une rencontre que de nombreuses personnes, je pense, attendent.
Et puis une nouveauté en termes de tarifs, il y a une volonté plus particulière de s'adresser aux personnes un petit peu défavorisées, notamment les personnes bénéficiant de minima sociaux, avec des tarifs adaptés.
Oui, c'était important pour moi de faire aussi profiter le plus grand nombre de personnes par la mise en place de ces tarifs réduits. On va pouvoir, sur les trois lieux, sur les trois théâtres, proposer à ces personnes la possibilité de venir, et pour moi c'est important.
Exploration des noms de lieux dans l'œuvre de Giono.
Les noms de lieux dans l'œuvre de Jean Giono, du goût des mots à la quête du sens, vient de recevoir le prix Bruno Durand de l'Académie d'Aix-en-Provence. Publié par Alpes de Lumière, l'ouvrage propose une approche originale de l'œuvre de Jean Giono par les noms de lieux que l'écrivain utilise et crée parfois dans ses différents romans. La toponymie littéraire est une discipline particulière où planent le romanesque et l'imaginaire. Son auteur, Jean-Claude Bouvier, est professeur émérite d'Aix-Marseille Université, spécialiste du domaine linguistique provençal. Il est aussi chercheur en toponymie française et régionale et fin connaisseur de l'auteur de Regain. Il répond aux questions de Mathieu Marc.
Comment est née cette idée de lire l'œuvre de Jean Giono par le prisme des lieux ? J'imagine que c'est lié à votre statut de chercheur en toponymie.
Oui. Je suis toponymiste, mais pas uniquement. Je suis linguiste, mais j'ai travaillé beaucoup sur la langue d'oc, le provençal en particulier, avec Claude Martel en particulier. Et puis je suis venu peu à peu à la toponymie, parce qu'il y a pas mal de rapports entre la dialectologie, dont je suis spécialiste, et la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms de lieux, des noms propres de lieux qui désignent l'espace. Et j'ai fait des travaux, comme beaucoup d'autres toponymistes, sur des espaces divers, des espaces ruraux en particulier. J'ai publié un livre sur les noms de lieux du Dauphiné également. J'ai publié aussi un livre sur les noms de rues qui disent la ville. Ça, c'est le titre de l'ouvrage. Et puis, je me suis intéressé, comme d'autres d'ailleurs actuellement, à ce qu'on peut appeler la toponymie littéraire, c'est-à-dire la place des noms de lieux et l'utilisation des noms de lieux, surtout, dans certaines œuvres littéraires. Et depuis quelques années même, je me disais que Giono mériterait une étude particulière, parce que il y a beaucoup de noms de lieux chez Giono dont beaucoup sont inventés ou déplacés, et ça m'intéressait de voir ça de plus près. J'ai travaillé pendant à peu près 2 ans là-dessus, et puis voilà, ce livre est sorti.
Ce qui doit être un travail assez colossal, vu l'ampleur de l'œuvre de Giono et le nombre de lieux cités.
C'est un peu colossal, parce que Giono a beaucoup écrit. J'ai utilisé l'édition de la Pléiade dans Giono, et l'édition de la Pléiade, c'est 8 volumes, ce qui est assez rare pour un écrivain. J'ai été amené à lire ou à parcourir à peu près toutes les œuvres de Giono, tout ce qu'on peut appeler les romans ou les chroniques de Giono, parce qu'il y a d'autres choses, il y a des articles, mais je me suis intéressé à ce qu'on peut appeler la partie romanesque de Giono, quoi, les grands romans de Giono. Quoi.
Et comment fonctionne ce livre ? Vous faites une approche lieu par lieu, vous les répertoriez, vous les analysez ?
J'ai répertorié les lieux, j'ai fait une base de données. Je n'ai pas pris toute l'œuvre de Genot, j'ai pris 11 œuvres, ce qui est déjà pas mal quand même. Et alors après, ben, j'ai regardé comment ça fonctionnait, comment ils étaient utilisés ou pas. Je me suis aperçu que souvent, dans certaines œuvres ou dans certaines parties d'œuvres plutôt, il n'y avait pas de nom de lieu. C'était des espaces qui étaient définis comme la colline ou le ruisseau ou la ville, etc. Et ça correspondait souvent, c'est ça qui était intéressant, au cheminement de ce qu'on peut appeler les errants, c'est-à-dire les personnages qui cheminent dans l'espace, qui sont souvent des gens qui cherchent du travail dans la campagne, mais ce sont aussi parfois des brigands. C'est toujours des individus qui sont un peu à la recherche de leur destin. Et c'est un peu le symbole de l'errance même.
Le sous-titre de votre livre, c'est « Du goût des mots à la quête du sens ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension esthétique et une quête de sens.
Alors, le goût des mots, c'est très net chez Genot. Il y a une espèce d'ivresse verbale, très souvent. Il aime manier les noms de lieux en raison de leur beauté, de leur expressivité, souvent. C'est le cas en particulier, ce que j'analyse pas mal dans le livre, quand il décrit des panoramas. Il est au sommet d'une montagne, d'une colline, et il décrit tout ce qu'il y a autour de lui, et parfois il décrit des choses qu'il ne peut pas voir. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est surtout la façon de dire des noms de lieux, de les énumérer, de les faire s'entrechoquer en quelque sorte. Il y a un véritable plaisir. Et puis alors, la quête du sens, bon, c'est évidemment beaucoup plus intéressant encore. Très souvent, il fait un peu ce que font les toponymies, c'est-à-dire il recherche l'étymologie des noms de lieux. On voit qu'il les utilise d'après le sens qu'il leur donne. Par exemple, dans un de Beaumugne, il utilise le nom de Beaumugne, qui est un petit hameau d'une commune des Hautes-Alpes, de Saint-Julien-en-Beauchesne. Beaumugne est écrit actuellement B-E-A-U-M-U-G-N-E, en rapport avec beau, la beauté, ce qui n'est pas la véritable étymologie. Et Genot modifie le nom, il écrit Beaumugne, B-A-U, avec un S, et en faisant cela, il découvre la véritable étymologie du nom, qui est Beaumugne, c'est un ensemble de ce qu'on appelle les baumes, la baume en provençal, c'est-à-dire la grotte, des anfractuosités dans le rocher. C'est effectivement, je connais bien cet endroit, c'est effectivement cela qui a permis la désignation du nom Beaumugne. Ça a une signification très particulière pour lui, puisque Beaumugne, c'était le lieu où il y avait des protestants, d'après ce qu'il dit, à qui on avait coupé la langue pour les empêcher de chanter leur chant religieux. C'était des gens qui se terraient un peu, qui s'isolaient un peu, qui étaient un peu isolés dans cet endroit. Le nom de Beaumugne, de ce point de vue-là, est très expressif, la façon dont l'écrit Genot. Mais il y a beaucoup de choses semblables.
Et oui, j'imagine qu'il y a plein de choses semblables et nous invitons les auditeurs, auditrices à découvrir votre livre. Un ouvrage d'ailleurs où il y a tout un tas de documents, de supports. Il y a des photographies, des peintures, des cartes.
Bah, ce choix de présentation, bon, c'est pour rendre le plus agréable à lire évidemment, mais c'est aussi quand même pour montrer quel est le rapport entre le lieu et le nom que donne Genot. À mon avis, c'est une espèce de redécouverte de Genot. Ce qu'il décrit, ce n'est pas vraiment la Provence, c'est une Provence transformée par son imagination, par sa création littéraire. Et l'étude des noms de lieux permet de comprendre beaucoup mieux, je crois, le processus général de la création chez Genot.
Nesrine Slaoui au Bleuet, d'APT à Sciences Po.
Née au Maroc et arrivée en France à l'âge de 3 ans, Nesrine Slaoui a un parcours atypique. Une femme maghrébine et d'origine populaire peut-elle prétendre atteindre l'élite intellectuelle française? C'était le rêve de la jeune aptésienne durant sa scolarité qu'elle a réalisé à force d'abnégation et de travail et avec l'appui constant de ses parents. Malgré les difficultés quotidiennes, les avis dubitatifs de professeurs notamment, et un nom qui affiche ses origines, l'excellente élève parvient à son but, faire Sciences Po, et exerce aujourd'hui le métier de journaliste dans une sphère où elle détonne. Elle a mis à profit le premier confinement début 2020 pour s'échapper de la capitale et retourner à APT chez ses parents afin de mettre noir sur blanc son parcours et ses obstacles. Ainsi est né Illégitime, publiée par Fayard, où elle évoque les préjugés de la société française et ses propres aspirations. Un livre passionnant, tant son chemin semé d'embûches nous questionne sur la jeunesse, les immigrés, la culture et la classe dominante, voire les stéréotypes de part et d'autre. Citant Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Gisèle Halimi, Annie Ernaux, Jack London ou Alice Zeniter, autant que Diams, IAM ou PNL et Kerry James, Nesrine Slaoui donne les clés pour appréhender une jeunesse méconnue et incomprise. En attendant que son livre soit lu et apprécié à sa juste valeur par nos dirigeants, issus comme elle de Sciences Po mais aussi de l'ENA, Polytechnique, HEC ou d'ailleurs. Accueillis au Bleuet par Marc et Sabine Gaucheran qui ont brillamment animé la rencontre de Bannon, Nesrine Slaoui répond à mes légitimes questions sur illégitime. Nesrine Slaoui, vous venez d'écrire illégitime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je, pour que vous et pour que nous, vous pensions enfin légitime?
Déjà, il faut que moi, j'arrête de courir derrière la légitimité. Je pense que c'est le plus grand travail de ma vie, c'est d'arrêter de vouloir être légitime. C'est pour ça que le titre de ce livre est comme ça, et ça s'appelle Illégitime, parce que c'est une revendication. Ce n'est pas ni une insulte, ni quelque chose de dégradant. C'est un renoncement d'être légitime, parce que les codes de la légitimité, c'est des codes qui sont bourgeois, et donc forcément pour moi, très archaïques.
C'est un livre qui raconte votre histoire, votre parcours.
Totalement, c'est mon histoire de jeune fille issue de l'immigration maghrébine qui a grandi avec sa famille dans le sud de la France, à Apt, dans cette ville-là, et qui part ensuite à Grenoble, puis finalement à Paris, là où je voulais partir, là, mon rêve initial pour devenir journaliste, donc dans un milieu très, très élitiste au final. C'est ce récit-là, et c'est un récit qui est à la fois un récit de réussite, mais c'est aussi et surtout un récit de violence de classe. C'est surtout ce que j'ai voulu raconter, c'est à quel point tout est fait pour que les personnes issues du milieu populaire et de l'immigration n'accèdent pas à ces institutions-là.
On vous a dissuadé depuis l'école déjà de suivre ce parcours?
Oui, totalement. J'ai eu à la fois des professeurs qui m'ont encouragé à faire Sciences Po, qui m'ont encouragé à avoir ce parcours-là, et puis des professeurs qui m'ont au contraire dissuadé, qui m'ont rappelé que c'était pas pour les gens comme moi. Et quand ils disaient des gens comme moi, c'était des gens qui n'avaient pas assez de culture générale. Et quand ils parlaient de culture générale, ils parlaient de cette culture-là valorisée socialement qui est la culture bourgeoise. Et effectivement, je n'étais pas issue de ces milieux aisés. Donc j'ai dû me confronter parfois aussi à des remarques très vexantes de la part de certains professeurs.
Jusqu'à certains camarades qui vous ont dit, par exemple, tu prends la place de ma sœur.
Oui, ce qui est le plus partagé, c'est cet élitisme-là. Effectivement, ça peut venir à la fois parfois des professeurs, parfois de vos camarades. Et quand ça vient des camarades, c'est peut-être même parfois plus violent parce que c'est des personnes de votre âge, c'est des personnes à qui vous voulez plaire, avec qui vous voulez développer parfois de l'amitié. Donc non, ça a été mes premières années, mes premiers jours, même à Sciences Po, ont été très compliqués là-dessus parce qu'on me renvoyait cette idée que j'étais une intrusion. Et c'est jamais très facile de le vivre quand tout un monde vous rejette et quand tous vos camarades vous rejettent.
Et puis il y a une structure particulière chez vous, et cette structure, il y a un mot qui la concerne bien, c'est mimétisme, très étrange.
Oui, c'est le fait de vouloir changer pour être accepté, de vouloir se conformer au maximum à ce qu'on attend de nous. C'est pour ça que je dis que pour moi, le travail que je fais au quotidien, c'est le renoncement de la légitimité, parce que je veux renoncer à ce mimétisme. Je veux renoncer définitivement au fait de devoir copier les personnes qui sont valorisées socialement pour être acceptées dans la société, parce que j'ai compris que qu'importe mon degré de mimétisme, je ne serai jamais de toute façon bourgeoise, je ne serai jamais un homme, je suis une femme. Donc il y a plein de choses comme ça que je refuse d'être. Il faut que j'accepte à un moment donné toutes les facettes de ma personnalité qui sont aussi souvent discriminées.
Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la communauté maghrébine, par exemple ?
J'en suis déjà issue, je suis issue de l'immigration maghrébine, et je sais que certains voient dans mon histoire de la fierté de pouvoir se reconnaître, de pouvoir s'identifier, et on est surtout très nombreux, même si on n'est pas assez nombreux. C'est là où il y a une nuance, on n'est pas assez nombreux dans les institutions, mais il y a beaucoup de personnes qui ont lu mon livre, qui sont issues de l'immigration maghrébine, ou qui sont simplement issues de milieux populaires aussi, qui ont vécu ce que j'ai vécu, et donc finalement c'est une autre communauté qui se crée, une communauté de solidarité en tout cas entre personnes qui ont vécu ces parcours-là, et c'est une communauté qui heureusement ne connaît pas de barrière ethnique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes noires qui se reconnaissent dans mon histoire, des personnes blanches qui se reconnaissent dans mon histoire, des personnes asiatiques, des personnes maghrébines. Donc il y a vraiment une autre communauté qui se crée de transclasse, de transfuge, en tout cas moi, de ce que je préfère appeler des chevaux à bascule entre deux mondes sociaux.
Vous êtes actuellement, Nesrine Slaoui, journaliste, et c'est un fait divers qui a fait que vous pratiquez ce métier, c'est l'affaire Ziad Ebouna.
Oui, oui, c'est l'affaire de Ziad Ebouna. Donc, c'est des deux jeunes hommes qui sont morts à Clichy-sous-Bois le 25 octobre 2005 et qui sont morts après que des policiers les aient poursuivis. Ils sont morts dans un transformateur EDF. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le traitement médiatique qui avait été fait à l'époque, parce qu'on présentait les personnes issues de l'immigration comme des racailles, des voyous. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait dit qu'il fallait carchériser les banlieues. Et nous étions les banlieues. Donc, nous étions les gens qu'il voulait carchériser. Quand vous entendez ces propos concernant votre identité, ce n'est pas facile. Et moi, je me suis dit, très très jeune, que je voulais en fait devenir journaliste pour raconter ces histoires-là, pour raconter ces histoires de quartiers populaires qui sont très très loin de la violence au final, qui sont, en tout cas moi je n'ai pas vécu dans de la violence, je n'ai pas vécu dans de la radicalité, je n'ai pas vécu dans un milieu hostile finalement, j'ai vécu dans un milieu prolétaire qui a ses travers et ses points positifs, mais en tout cas je ne voulais plus de cette étiquette stigmatisante à coller sur nos histoires, et j'en avais marre aussi qu'on dépeigne la banlieue comme un endroit qui se détériore en permanence et dont il n'a rien à tirer. Je trouve qu'il y a énormément de talent justement dans ces banlieues-là, que ce soit dans l'art, dans tous les domaines finalement. Il n'y a pas notamment que des sportifs, parce qu'on met souvent en avant les joueurs de l'équipe de France de football dont on est très fiers, mais il y a aussi d'autres parcours qu'il faut saluer et que moi j'essaie d'encourager à ma façon à travers ce livre.
C'est pour ça que vous citez très souvent des rappeurs dans votre livre ?
Totalement, parce que ça participe de ma culture et moi c'est ma première approche de la sociologie, c'est le rap. C'est parce que je lisais dans le rap le fonctionnement social et la violence sociale et c'était les textes qui ont bercé mon adolescence quand j'essayais de comprendre. Je le dis à un moment dans le livre que moi je montais souvent quand j'étais dans mon quartier populaire, dans mon appartement, dans ma chambre, je regardais souvent à l'horizon et je me demandais toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline, qu'est-ce qu'il y a derrière les bâtiments, pourquoi on est là, pourquoi on est ici, pourquoi on n'est pas ailleurs, pourquoi il y en a qui sont à Paris, d'autres qui sont dans le sud. Et donc je me questionnais justement sur notre rapport à la société et comment l'endroit dans lequel on vit, dans lequel on grandit, influence sur le reste de notre vie. Et moi, c'est le rap qui a d'abord répondu à cette question, puis après c'est la sociologie qui a répondu à cette question. Et finalement, je suis le mélange de ces deux savoirs-là qui pour moi sont des, je sais que c'est parfois provocant de le dire, mais pour moi qui sont des savoirs qui se vouent, en tout cas dans ma construction personnelle. Les deux m'ont apporté des choses essentielles pour ma construction intellectuelle.
Il y a un autre élément qui vous a apporté énormément, évidemment, c'est la famille. Vous en parlez très bien, votre père qui ne maîtrisait pas la langue française, mais aussi votre grand-père, votre arrière-grand-mère. Et là, il y a des rencontres de femmes et d'enfants avec une génération précédente qui sont très poignantes.
Oui, je voulais aussi leur rendre hommage, aussi d'une certaine façon. Je voulais raconter les histoires de mes grands-parents et de mes parents qui ressemblent en fait aux histoires de plein de personnes issues de l'immigration maghrébine en France. Et c'était à la fois c'était une volonté de leur rendre hommage, mais ce n'était pas forcément facile à faire parce que c'est compliqué aussi de se confronter à quoi sa famille a vécu, notamment à ses grands-parents, parce que au-delà de le fait que je suis journaliste et que j'ai essayé de les interviewer en tant que journaliste, je suis aussi leur fille, leur petite fille. Donc ce qu'ils ont vécu me touche justement par amour, par lien affectif qu'il y a entre nous. Donc non, c'était pour moi, c'était essentiel de ne pas faire. Et puis ça explique forcément mon parcours. Je ne peux pas raconter mon histoire sans raconter l'histoire des miens et de comment je suis arrivée en France. Parce que si je suis arrivée en France, c'est parce que mon grand-père a quitté le Maroc dans les années 70 et qu'il s'est installé ici. S'il n'avait pas fait ce parcours-là, peut-être que je ne serais jamais arrivée en France.
Nesrine Slaoui, vous avez profité, entre guillemets, du confinement pour venir vous réfugier à Apt, comme vous dites. Ça vous a permis de vous retourner sur votre parcours vous-même, vous regarder dans la glace ?
Totalement. Comme je dis dans le livre, j'en ai profité pour arpenter le fossé qui me sépare des miens. C'était le moment où je pouvais me plonger dans tout ce que j'avais essayé de camoufler, de rejeter, de ne pas analyser, ou alors d'analyser qu'à petite dose de temps en temps quand ça me convenait. Là, j'étais vraiment en position de me dire « Ok, je suis revenu au point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es parti ? Qu'est-ce qui a changé en toi ? Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport avec les tiens ? Est-ce que tu les as trahis ? Est-ce que tu ne les as pas trahis ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été violente avec eux ? En termes de violence de classe, hein, pas physiquement. Est-ce qu'il y a dans mes propos, je leur ai renvoyé la violence de classe que moi-même je vivais, c'est-à-dire de la violence symbolique qui est propre à nous les transfuges de classe, en tout cas les chevaux à bascule. Donc ça me permettait de faire une introspection et de me regarder. J'ai essayé de, parce que je ne suis pas sociologue, mais j'ai essayé en tout cas de me regarder d'un point de vue sociologique et de regarder toute mon histoire d'un point de vue sociologique.
Et puis il y a quelque chose qui a changé chez vous et vous le regrettez peut-être, vous allez nous le dire, c'est votre accent.
Oui, mais en fait, c'est assez particulier. Mais quand on est journaliste à Paris, on doit gommer son accent du Sud, à moins qu'on fasse... C'est très caricatural ce que je vais dire, mais c'est vrai. Mais il n'y a que dans le sport où c'est toléré ou dans des choses comme ça. Mais quand on veut faire de l'information générale comme on aime le faire, quand on aime traiter des sujets de société plus large, l'accent du Sud, de n'importe quel Sud, hein, je parle aussi bien de l'accent du Sud-Est que l'accent du Sud-Est, et ce sont des accents très très mal vus et sont considérés comme des accents pas sérieux. Donc moi, on m'a fait plusieurs fois la remarque que je devais le supprimer. Et puis là, comme vous l'entendez, il n'existe quasiment plus. Il revient de temps en temps. Quand je passe un peu trop de temps ici, mais non, il est quasiment totalement effacé.
Il faudra revenir plus souvent, Lord Nesrine. Une dernière question, vous avez prévu une suite à Illégitime ?
J'ai prévu d'écrire un autre livre. Effectivement, je suis toujours chez Fayard pour mon prochain roman, qui est pour le coup totalement une fiction. Mais ce ne sera pas une suite à Illégitime. Je pense que pour faire une suite à Illégitime, il faudrait encore que je vive 10 ans. Il faudrait encore que je vive d'autres expériences pour revenir sur, peut-être dans 10 ans, comment ça se passe au final, ce parcours-là de transfuge de classe. Est-ce que finalement je vais redevenir totalement prolétaire? Est-ce que je vais être toujours dans cette entre-deux? À quel moment en fait je vais trouver une paix sociale intérieure? C'est-à-dire à quel moment je vais calmer mon identité sociale? Je pense qu'il faut encore me laisser du temps pour faire une suite, pour que déjà j'ai des choses à raconter et que j'ai des choses aussi à analyser en termes de vécu. Mais en tout cas, j'ai prévu en tout cas d'en écrire un autre très prochainement.
Vous avez un thème?
Oui, alors est-ce que je peux en parler? Je sais pas. Mais en tout cas, cet ouvrage parle beaucoup de social au sens de classe sociale. Le prochain va beaucoup plus parler de féminisme. Pour le coup, ça va être totalement une fiction et je vais m'intéresser à tout ce que vit une femme dans sa vie à la fois professionnelle et à la fois privée.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Oui, merci Olivier. La semaine prochaine, nous aurons la première interview de la présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Eliane Bareille, qui a été nommée en même temps d'ailleurs que Dominique Santoni, la maire d'Apte, dans le Vaucluse. Des femmes qui prennent le pouvoir, ça n'est pas pour me déplaire.